Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir d'être ici au théâtre Kléber-Mello. C'est un rêve en fait. J'aurais jamais pensé qu'on pourrait venir une fois ici avec Tu l'as lu. Ben, on est là. Je voulais remercier de tout cœur toute l'équipe du TKM, Omar Porras, Jonathan Diegelmand, Michel Muller qui est là-bas au bar, qui va être là toute la soirée avec nous. Un immense merci à toute l'équipe du TKM. Tu l'as lu est une association qui organise des rencontres littéraires pour faire rayonner la littérature romande. On existe depuis 2007 et on organise entre 8 et 10 rencontres par année. Et en fait, on a plusieurs formats, mais le plus souvent, ce sont des entretiens avec un modérateur, modératrice, un auteur, une autrice, et souvent aussi de la musique. C'est le format que vous aurez aujourd'hui. Mais ça peut aussi varier. Et puis, notre particularité, c'est aussi qu'on change de lieu pratiquement chaque fois. La dernière fois, on était à l'usine de Pierre de Plan, avec Marie-Jeanne Urec. La fois d'avant, on était à la ferme de Rovéréa, avec Blaise Hoffmann et puis Jean-Pierre Rochat. Et en juin, on était au musée de zoologie avec Bruno Pellegrino. Donc on essaye de faire correspondre les univers aux univers des... Enfin, les écrins dans lesquels on accueille nos auteurs, autrices. On essaye de faire correspondre les univers avec les lieux dans lesquels on les reçoit. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Tasha Rumley. Alors, Tasha Rumley, elle a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « À l'amour, à la mort », qui a été édité chez Bernard Campiche en 2022. Tasha Rumley est autrice et travailleuse humanitaire. Elle a travaillé pour la DDC, pour la chaîne du Bonheur, pour le CICR, où elle a œuvré en particulier à Donetsk et puis à Mariupol. On a le plaisir d'accueillir aussi Anne-Laure Ganac, qui est journaliste, productrice animatrice à la RTS. C'est elle qui va animer donc la soirée. Et puis elle a produit encore Vertigo. Donc elle est arrivée directement de Vertigo pour arriver ici à l'heure au TKM. Et puis on a la chance d'avoir une chanteuse, Renata. Alors, Renata, tout le monde me demande est-ce qu'elle a un autre nom. Non, c'est son nom d'artiste. C'est Renata. Renata habite à Lausanne, mais elle nous vient de Bosnie-Herzégovine, où elle est née. Voilà. Et puis, elle est autrice, compositrice, interprète. Voilà. Donc, on se réjouit de l'entendre. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes.
Merci beaucoup, Cornelia Depreux. Donc, pour entrer dans cette conversation, je suis désolée, Cornelia, je vais devoir dire que vous avez vexé notre invité. Non, c'est pas vrai. Mais parce que je sais que le terme de recueil de nouvelles, ça, en général, ça la titille un peu, ça la gratouille un petit peu. Elle n'aime pas trop cette expression. Elle n'aime pas trop qu'on parle de son livre comme ça, à l'amour, à la mort, même si, de toute évidence, ce sont sept textes qui sont réunis dans ce livre donc, qui est apparu aux éditions Campiche il y a un peu plus d'un an. Donc on va évidemment plonger dans ce livre. Et pour plonger dans le livre, quoi de mieux que de lire le tout premier texte? Alors c'est un texte très court, donc on va avoir la chance de l'entendre en intégralité, qui est comme un choc, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi, avec ce ton déjà qu'on saisit, où la poésie n'est jamais très loin de la prose. Donc Tasha Rumley, merci de nous lire ce premier texte intitulé Bambi, comme un conte, mais pas trop.
La jeune fille avait 17 ans et il roulait dans la nuit. Il en avait à peine plus, son chéri, et il devait être celui de toute sa vie. Entre eux, c'était établi. Elle était sérieuse à 17 ans et ne restait pas chez le garçon. Il la ramenait à sa maison après chaque soirée passée sur son canapé, leurs corps timides l'un à l'autre collés. En chemin de campagne, sobre ligne bétonnée de la largeur exacte d'un tracteur qui suivait en sinuant la démarcation des champs, menait d'un à l'autre logement. Sur ce trajet 100 fois parcouru, conduisait-il gaiement. C'était une nuit sans lune, sans une lumière à l'horizon, dans le creux du vallon. Une nuit absolue que ne pénétraient que mollement les deux cônes jaunes des phares de sa Peugeot. C'était la fin des années 90, et cette Peugeot-là, aux gris métallisés et aux étoiles filantes comme une planche de surf, cette Peugeot s'attirait les regards envieux de tout le gros de veau. Le petit fan a surgi entre les épis verts et denses et s'est élancé comme un papillon dans la danse. Selon un réflexe atavique, le conducteur a enfoncé sa jambe sur les freins et la passagère a plaqué sur les joues ses mains. Inaudible cri d'horreur. La voiture était encore neuve et sa mécanique vaillante. Le fan a filé entre les mailles de la mort qui avait ralenti et s'est échappé dans la nuit. Il était sauf. Les mains de la jeune fille sont retombées et le pied du jeune homme sur les freins s'est relâché. Dans la pénombre, ils ont échangé un regard furtif de complicité, un sourire de fierté a élargi la bouche du pilote au réflexe impeccable. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde et il a remis les gaz. Alors, le deuxième petit fan a bondi des herbes sur les traces de son frère et, sous le bolide lancé, son élégance a été broyée. Elle n'avait que 17 ans et n'entendait pas encore le message que la vie lui avait ce soir-là dicté. Les malheurs viennent par paire, tel le facteur qui sonne toujours deux fois. Ainsi, la grand-mère hospitalisée pour une simple fracture inspire l'air chargé du virus dans sa chambre partagée et succombera ainsi, surprise et suffocante. Ainsi, les premiers secours ukrainiens, précipités sur les lieux du bombardement, se font faucher par la seconde salve, car l'ennemi réajuste son tir pour viser mieux au deuxième coup. Ainsi sont terrassés les Beyroutins sortis voir au port le premier incendie, jusqu'à ce que le feu atteigne les tonnes de nitrate d'ammonium qui dormaient là, négligemment. C'est cette deuxième détonation qui fit la plus grande explosion non nucléaire de tous les temps. Le malheur frappe par deux fois, car la vie est cruelle et se gausse de nos échappées belles. Cours, Forrest, cours. Ce soir-là, réfugiée dans son lit d'enfant, l'amoureuse de 17 ans a pleuré abondamment. Elle a pleuré sur le destin tragique de ce Bambi, sur ses spasmes ultimes dans l'agonie et son regard étonné aux deux adolescents dévastés. Elle a pleuré sur l'innocence perdue de son compagnon, injustement puni pour son relâchement alors qu'il avait surmonté la première épreuve vaillamment. Jamais ils n'en ont parlé, et la jeune fille ignore si le garçon, lui aussi, a toute la nuit pleuré. Au réveil d'un sommeil sans rêve, elle a contemplé le désastre. Son amour avait donné la mort. Ils étaient maintenant souillés.
Merci, Tasha Rumley, pour cette lecture donc du tout premier texte qui ouvre votre livre qui s'intitule donc Bambi, ce premier texte. Alors peut-être donc éclairer cette question-là, on l'a dit, ce sont 7 textes réunis. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de recueil de nouvelles alors, Tasha?
Parce que dans le milieu littéraire en général, les nouvelles c'est assez dévalorisé. Je me souviens d'un des tout premiers articles qui est sorti quand mon livre est sorti. J'étais ravie, j'avais un papier radio sur une radio privée à Genève. Et le papier commençait par « Tasha Rumley a fait les fonds de tiroir et a sorti ce livre ». Et le journaliste ne réalisait même pas de ce qu'il disait. Enfin, ce n'est pas les fonds de tiroir des nouvelles. Je trouvais que c'était vraiment assez brutal comme ça. Ce livre, j'ai voulu l'écrire sur une unité thématique. Il est né d'un hasard avec une histoire que j'avais écrite à un moment et une autre. Et puis d'un coup, j'ai senti qu'il y avait des échos entre ces deux histoires. Et j'ai eu très vite le titre en tête, « À l'amour, à la mort », avec ce twist de « À la vie, à la mort » qu'on peut retourner et donc créer une allitération. « À l'amour, à la mort, à l'amour, à la mort », ça devient chamanique comme incantation. Et je me suis dit « Tiens, on va explorer ». Les rencontres entre l'amour et la mort de diverses façons. Et donc, à partir de deux histoires que j'avais écrites comme ça, je me suis dit, OK, on va compléter maintenant et on va approcher ce thème de différents angles.
Et pourquoi alors ne pas avoir fait une seule longue histoire ?
Alors on fait ce qu'on peut. Mais je pense que les deux premières histoires qui étaient nées... Alors en fait, je travaillais, depuis 2019, je travaille sur un roman. Un roman à long cours. Ça fait 4 ans de travail. C'est un roman qui me demande beaucoup de recherche, qui va aussi, qui est émotionnellement assez lourd. Et des fois, ce roman m'accable. Je me décourage parce que je me dis que j'y arriverai jamais. Et donc, je me suis mise à faire des concours de nouvelles pour m'aérer l'esprit, en fait, pour pouvoir sortir du roman mais continuer à écrire. Et j'aime la forme de la nouvelle parce que je pense qu'il y a une intensité et une spontanéité dans la nouvelle qui est assez fraîche, qui est assez autant quand on l'écrit que quand on la lit. Enfin, disons, j'espère, je le souhaite. Et cette brièveté nous fait aller un peu plus à l'os. On vire l'essentiel, on vire le superflu. On essaye de garder l'essentiel. Et finalement, je me rends compte aussi que beaucoup de gens aiment lire des nouvelles, des textes courts qui accablent moins aussi qu'un long roman.
Et puis, il y a la satisfaction d'avoir fini quelque chose, au moins quand le point est posé, on peut passer à un autre texte. Un mot, avant de plonger dans les thèmes même, un mot sur l'origine. Alors, ce premier texte, peut-être, il nous faut préciser que ça n'est pas le premier que vous ayez écrit. Donc, on va les lire dans un ordre qui n'est pas celui de votre écriture. Quand et comment, oui, est né l'ouvrage lui-même, outre le fait que ce soit une sorte de récréation de votre grande saga que vous écrivez en ce moment?
Mais je pense que dès le moment où j'avais donc deux nouvelles de concours, qui toutes les deux étaient des histoires qui touchaient à l'amour de manière assez dramatique, et que je me suis dit, ah, ok, on va partir sur ce projet de créer un ensemble. C'est une manière d'enclencher le cerveau sur un... On est à l'affût, en fait. Ça m'a pris un an et demi d'écrire ce livre. Et puis, c'est ça qui est bien avec la nouvelle, c'est que le thème est quand même moins complexe que sur un long roman, et tout d'un coup, on a une sorte d'illumination. Moi, j'ai des illuminations quand je vais marcher dans le Jura, voilà. Et en général, à force, avec la mécanique du corps, le cerveau s'enclenche et les choses viennent.
Et pardon, à ce moment-là, vous enregistrez? Comment vous faites pour vous souvenir? Vous vous arrêtez, vous prenez des notes?
Oui, j'ai souvent un calepin. Je note des choses. Et mon drame, c'est que je trouve toujours le titre avant d'avoir écrit l'histoire. Et j'adore les titres. J'ai des listes de titres. Je trouve que les titres, c'est quand même un truc génial dans la vie. Et une fois que le titre est là, je me dis, non, mais il faut absolument que je l'écrive parce que le titre est super. Donc, il faut... on ne peut pas laisser ce titre dans un carnet. Donc, ça me met une pression, en fait, dès le moment où j'ai des titres. Et puis, au fil du temps, en fait, j'ai écrit les 5 histoires du milieu. Les 5 histoires centrales sont assez longues. Et puis, en fait, je perçois le livre comme un objet aussi, comme un coffret précieux, naturellement. Et le contenu, le trésor du coffret, c'est les 5 histoires centrales. Mais après, on a des petits coussinets pour encadrer ce trésor-là. Et donc, il y a une histoire introductive, qui est celle que je vous ai lue, qui permet d'entrer dans l'esprit de ce livre. Et la dernière histoire, que je vous lirai aussi normalement, qui permet d'en sortir. C'est comme une intro et une outro à l'opéra, quoi. En toute modestie.
En tout cas, cette première nouvelle que vous nous avez lue, elle donne le ton. On est vraiment dans cette dureté, cette cruauté. Ici, c'est la découverte simultanée de l'amour et de la mort pour cette héroïne. C'est comme comme si vous aviez voulu nous donner comme ça un uppercut soudain en ouvrant ce livre. Comment est-ce que ce premier texte, cette jeune fille, qui est-elle ? Pour vous, cette jeune fille de 17 ans, pourquoi choisir une telle héroïne pour ouvrir et être confrontée ainsi à l'amour, à la mort?
Alors, quelqu'un m'a dit, et c'est marrant parce qu'on ne pense pas à toutes les interprétations de ce qu'on écrit, quelqu'un m'a dit que la jeune fille du premier texte et la femme du dernier, que c'est la même. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant en fait, et maintenant je pense qu'effectivement c'est la même. Je n'avais pas vraiment prévu, mais je pense que c'est la même et c'est un cheminement de vie finalement. La thématique centrale de ce livre, c'est la perte de l'innocence. Pour moi, c'est vraiment c'est ça qui marque toutes les histoires. Et je pense que la perte de l'innocence, c'est, euh, C'est une étape de vie que chaque personne traverse à des moments différents, souvent à des moments qui n'étaient pas prévus. Et puis, naturellement, la perte de l'innocence est une tragédie en soi, parce qu'on aimerait rester toujours dans cet état-là. Et de partir sur un personnage d'adolescente, c'est sûr qu'on est, un peu dans l'archétype de la perte de l'innocence. C'est la fin de l'enfance, c'est la découverte de l'amour, c'est cette espèce de bonheur amoureux, la jeune fille plane, et le choc de la voiture... C'est une métaphore pour moi du choc de la vie, que la vie nous impose quelque chose qui nous entrave et nous marque et nous blesse. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Les autres histoires vont un peu plus explorer qu'est-ce qu'on fait une fois que la tragédie a frappé. Ici, on est uniquement dans ce moment clé qui brise.
Ou le réel, c'est Jacques Lacan qui dit le réel, c'est quand ça cogne. Donc là, on peut dire qu'elle se confronte au réel. Et effectivement, à la toute fin, ça va très bien se terminer. Elle va connaître un tout autre plaisir, voilà, pour ne pas trop divulgâcher, mais on va se découvrir. Bambi, je pense qu'on l'a entendu, hein, il y a de la poésie dans ce texte-là, il y a même des rimes, hein, on a entendu cela. Comment est-ce que vous écrivez? Quelle est votre méthode? Est-ce que vous écrivez un peu comme vous venez de le faire là, en lisant à voix haute pour entendre ces sons qui sonnent et ces rimes éventuellement?
Oui, alors surtout sur des textes courts. C'est vrai que ça, c'est un texte. Pour moi, c'est un texte qui est totalement métaphorique. On n'est pas sur une intrigue. Voilà, c'est de l'onirique. Le personnage du faon, le petit faon, ça n'appartient à... Bien sûr, on peut shooter un faon, évidemment. Mais le faon, c'est aussi une image de l'innocence. Et Bambi, le titre de Bambi, on fait appel à une symbolique de l'innocence, de la beauté,
de l'enfance, de
ce qui est sauvage, mais sauvage au sens positif, au sens beau. Et c'est donc un univers qui est déjà poétique. Et effectivement, j'écris aussi de la poésie à côté, qui n'est pas du tout publiée, un jour peut-être. Mais ça, c'est clairement un texte que j'ai lu à haute voix, lu et relu, pour chercher. J'aime le rythme aussi lancinant d'une poésie en prose qui dure un peu et où, quelque part, quand on écoute le texte, même si on décroche et qu'on n'écoute plus vraiment ce qui se passe, on est quand même bercé par cette musique-là. Et je trouve que c'est ça qui nous élève, en fait.
À quel point est-ce qu'il y a une démarche esthétique dans l'écriture, pour vous ?
Il y a toujours une démarche esthétique. Il y a une interview de l'autrice Christine Angot qui dit que le style, c'est le timbre-poste. Pour permettre au message d'arriver à destination, s'il n'y a pas de style, le message ne sera pas reçu. Le contenu n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de style, s'il n'y a pas une démarche esthétique. Moi, j'en suis absolument convaincue. Maintenant, mon problème, c'est que je suis devenue extrêmement pédante. Je ne supporte plus de lire des livres qui ne sont pas bien écrits, qui me tombent des mains.
C'est quoi alors un texte pas bien écrit?
C'est indescriptible, c'est vraiment la question la plus difficile.
Alors, si quelqu'un a une réponse, manifestez-vous.
Mais je pense que le sens du beau, on l'a, et que c'est un sens qui est inconscient. Moi, j'ai par exemple des gens qui ont lu mon livre, qui sont des fans absolus de polar, qui en mangent comme ça, ils sont à la retraite, ils mangent du polar avec assez peu de...
Avec non, on ne parle pas de vous. On parle de pas.
Avec peu de, ils s'intéressent peu. Ils disent qu'ils s'intéressent pas vraiment à la littérature, mais en fait, quand ils ont lu mon livre, ils disaient mais c'est beau, mais je sais pas pourquoi. Puis je me suis dit mais ce sens esthétique-là, on l'a tous. Mais après, il y a aussi beaucoup de, il y a un certain élitisme qui s'accompagne de ça, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ça les touche pas. Ou qui ne vont pas le chercher parce que ça apparaît comme quelque chose des classes supérieures intellectuelles. Mais je pense que c'est l'art, en fait. C'est l'appel de l'art, de l'esthétique pour ce qu'elle est, parce qu'elle nous permet de nous échapper de nous, de notre horizon fermé, en fait. On relâche, je pense, quand on est au contact de l'esthétique.
Mais le piège, ça serait de se regarder écrire, de vouloir faire joli. Comment est-ce qu'on évite ça, quand même?
Oui, moi je pense que on a différents pôles qui nous influencent dans l'écriture. Je pense que l'esthétique, c'est une chose. Moi, mon autre pôle très fort, c'est les personnages. Quand j'écris, Il y a des thèses que j'écris qui sont vraiment nulles et que personne ne verra jamais parce que je les jette, tout simplement. Il faut faire du tri aussi.
Il y a beaucoup de déchets, par exemple, pour un tel livre avec cette...
Non, pas beaucoup, parce que je comprends assez vite quand ça ne marche pas, donc j'abandonne assez rapidement. Mais pour moi, écrire, c'est faire vivre des personnages. Et j'ai vraiment... Il y a un moment, quand j'écris, où j'ai l'impression que l'histoire, elle démarre, et j'ai l'impression que les personnages se lèvent et marchent, et qu'ils commencent leur vie autonome. Et moi, je suis derrière, en fait. J'essaie d'écrire assez vite pour ne pas perdre le fil et se raconter ce qu'ils font. Mais il y a quand même ce sentiment qui est peut-être un peu mégalomane comme ça, mais de croire que nos personnages vivent leur propre vie et qu'on est uniquement un passeur.
Et vous y arrivez toute seule, à savoir si un personnage tient debout, si j'ose dire, ou bien il faut la lecture de personnes autour de vous, de confiance?
Non, j'ai une ou deux personnes de confiance, une qui est dans la salle, dont la vie est extrêmement précieuse. Mais je pense que j'ai assez confiance en ce que je fais, et c'est justement quand je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas que je vais aller chercher de l'aide. Et là, on arrive, un lecteur externe arrive à dire « Ah, il y a ça qui est artificiel, ou il y a ça qui ne marche pas. » Mais je pense que si quelqu'un me dit « Là, ça ne marche pas du tout », sur une chose où je suis convaincue, je ne vais juste pas l'écouter.
En tout cas, on sent bien, en vous écoutant, Tasha Remley, qu'il y a un vrai plaisir à écrire, un vrai besoin même d'écrire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allée tout de suite vers l'écriture et plutôt que passer par le journalisme, puis l'humanitaire ?
Parce que j'avais rien à dire, et je pense que je le savais. C'est vrai que j'étais journaliste jusqu'à 30 ans, et j'aimais beaucoup ce métier. Déjà, bon, ça assèche un peu le journalisme quand même, parce qu'on passe son temps à produire du texte, donc si le soir il faut encore écrire un roman, ça fait beaucoup. Puis aussi, quand on est jeune journaliste, on remarque vite nos propres limites, je pense. Moi, je voyais que j'avais rien vu du monde. J'étais en séance de rédaction, mes collègues avaient 20 ans de plus que moi, ils connaissaient 100 fois plus de choses. Donc, je ne me serais pas imaginé, moi, me mettre, croire que j'allais pouvoir être écrivaine. Et puis j'avais aussi un peu cette image que les écrivains, c'est des hommes vieux, de préférence morts. Voilà. Donc,
sauf pendant l'écriture, en général, ils sont vivants.
Il y a un moment, avant, normalement, ils doivent vivre, mais oui, je pense que j'avais envie de voir le monde.
Bon, il fallait vivre avant d'écrire, justement. On va rentrer un peu plus dans les textes, même avec vous, Tasha Remley. Mais d'abord, on va avoir un peu de chansons, un peu de musique, par Renata.
Tout ce que j'aime est là-bas, est là-bas, est ici, est ici, et je suis qui je. Tout ce que j'aime est là-bas, est ici. Est ici, est ici, et je suis qui je suis. Arpenter les routes des lendemains, chasser, croiser. Affronter les doutes du présent, passer. Où tout ce que j'ai et froissé, et fâché, attaché au passé, arraché à mon unique jet. Tout ce que j'ai est froissé, et fâché, attaché au passé, arraché à mon unique jet. Et je vis là où le passé sied, là où le passé gît, là où le passé jouit d'une présence que j'ai pas ici.
Ici on m'appelle l'au-delà. aucune mer, aucune rivière, aucun courant, qui ne soit d'ailleurs, ne coule en moi. Les berges d'ici et là-bas me semblent loin, arrimées à mes rêves du passé, je vole là-bas.
Où tout ce que j'ai est brassé, et brimé, arrimé, au passé, à présent, je m'en vais en voguant, 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 en voguant.
Merci.
Magnifique chant par Renata. Spectaculaire d'arriver à chanter comme ça sans la moindre note, partir et rester juste tout long. Bravo. C'est sublime. On repart avec vous en voguant avec À l'amour, à la mort, votre livre, Tasha Remley, qui nous occupe aujourd'hui. On va s'intéresser un peu plus au thème. Thème de la mort en particulier, qui est quand même très très présent dans cet ouvrage. Mais d'abord, vous allez nous lire un extrait donc d'une autre nouvelle, enfin non, pas nouvelle, d'un autre texte de ce livre.
Histoire.
Une autre histoire, voilà. L'heure morte.
Il y a un certain soulagement lorsque l'effondrement que l'on redoutait depuis longtemps finit par advenir. Peut-être même une satisfaction d'avoir eu raison. D'angoissée et malaisée, je suis devenue absolument triste. Le vide de mes nuits me laissait fatiguée comme un gréviste de la faim. Mon corps s'asséchait contre les draps secs et froids. Bien sûr qu'à ce stade, j'aurais pu rappeler Aïgoul et tout lui raconter. Elle n'était qu'à 2 clics sur écran tactile à portée de 4G. J'aurais dû. Il y avait qu'à. Sven n'était plus son chef. Elle n'en avait plus rien à fouetter de sa petite autorité. Et je ne peux plus aujourd'hui retrouver quelle logique m'a fait maintenir la loyauté envers lui plutôt qu'envers elle. Notre sororité me semblait un mythe, je doutais qu'elle eût jamais existé. Je ne retrouvais plus le chemin jusqu'à elle. Plus jamais je ne l'ai appelée. Est-ce qu'elle a réalisé que c'est le solstice d'été? Quand je repense au précédent, celui qu'on avait célébré ensemble dans le parc de Montrepos, Aïgoul, couverte de breloques étincelantes dans le soleil tombant de juin, chamane du crépuscule, à la fois purifiée à sa sortie de Ramadan et blasphématrice en figure de Gaïa, dansant les pieds noirs et nus au son de la bachata des voisins de pique-nique. Je plante mes ongles au plus profond de mes paumes. Je me repasse le film en entier et le solstice 2018 s'érige comme le sommet de notre amitié, l'euphorie victorieuse avant que le mouvement nous fasse dégringoler. Bien plus vite que nous étions montés. Un an suffit pour chuter du paradis jusqu'au fond de l'abîme. Parfois, lorsque personne n'écoute, je lui parle à voix basse. Je murmure son nom. Aïgoul, Aïgoul, tout doucement, avec toute la tendresse qui subsiste en moi, comme on appelle un petit chat pour qu'il approche. Je n'articule que son nom. La langue du cœur est bien pauvre en vocabulaire. On a tort d'affirmer sa beauté. Le cœur ne sait rien dire d'autre que non, non, Aïgoul, non, Aïgoul, non. J'ai cette croyance absurde que si je parviens à chuchoter de la voix la plus basse qui soit, à ce niveau où les syllabes sont à peine, mais tout de même perceptibles, que ces infimes chuchotements-là, elle les entendra. Je lui caresse la joue, j'essuie ses larmes ou les miennes, peu importe, ce sont les mêmes.
Donc un extrait de L'heure morte, cet autre texte de votre recueil. Peut-être préciser qui sont ces personnages. Il y a la narratrice et il y a Aïgoul. Elles étaient colocataires, Aïgoul venant du Kyrgyzstan, colocataires et travaillant ensemble.
Oui, c'est effectivement une histoire d'amitié assez passionnelle, d'amitié née par hasard, par le hasard d'une colocation. Avec entre cette Suissesse et cette Kirghize qui débarque du Kyrgyzstan, d'une famille extrêmement bourgeoise de la haute société, qui débarque complètement parce qu'elle n'est pas du tout prête à Elle est en choc culturel en arrivant en Suisse, et c'est d'un coup cette union de ces deux femmes qui vivent et travaillent ensemble avec une sorte d'histoire d'amour entre elles qui suit une courbe ascendante et qui s'écrase.
Autour d'un certain Sven qui est le patron, en fait.
Je ne veux peut-être pas tout raconter
non plus. On pose les personnages.
Mais disons qu'effectivement, avec le patron, ça nous donne une sorte de triangle amoureux. Mais ce que j'aimais dans cette histoire, c'est qu'en fait, au-delà de la question de la sexualité, l'histoire d'amour ici, elle est entre ces deux femmes. L'amour se trouve au sein de cette amitié-là, et c'est le drame d'une amitié qui est brisée.
Il y a pas mal de vous aussi dans cette histoire-là. Alors, c'est le cas de tous les écrivains, on dirait, mais sans doute. Mais le Kyrgyzstan, vous avez bien connu.
Oui, j'ai travaillé un an au Kyrgyzstan pour le CICR, dans les prisons. D'une manière générale, ma zone, c'est l'ex-URSS. Donc, j'ai fait beaucoup de missions en ex-URSS. Je parle le russe, donc je faisais partie de l'équipe de délégués du CICR russophone déployable dans ces zones-là. Et tous les pays d'ex-URSS, attention, les Ukrainiens ne seraient pas contents de m'entendre, mais ont un certain bagage commun qu'on retrouve d'un endroit à l'autre, entre le Kyrgyzstan, l'Asie centrale, le Caucase, ensuite Ukraine, Géorgie, Russie, naturellement. Et c'est tout un univers dans lequel j'aime aller puiser, parce que je le connais bien, et qui est faussement proche, parce qu'on est sur des pays, sur des ethnies généralement blanches, des personnes généralement chrétiennes. Alors là, le cas d'Aïghoul est différent. Aïghoul est musulmane, ça joue aussi un rôle. Elle n'est pas tout à fait blanche non plus. Mais on croit qu'on est très proche parce qu'on se ressemble, mais il y a quand même un énorme fossé qui peut créer des tensions, mais qui crée aussi une beauté dans la découverte. C'est vraiment une rencontre, en fait, une rencontre de l'altérité.
Alors, on ne va peut-être pas trop dire, mais quand même, ça se termine mal.
Oui.
Vous aurez compris que c'est assez récurrent.
Non, je tiens à préciser, non, parce non. Que là, les gens vont être dégoûtés. Oui. Ça se termine de moins en moins mal.
Oui, après, ça se termine super bien.
Non, mais c'est vrai. Au début, c'est dramatique. Non, j'ai une de mes amies qui s'est arrêtée après celle-là. Elle m'a dit c'est trop dur.
Mais non, il faut non, continuer. Mais après, ça s'arrange. Ça va mieux aussi. C'est comme ça, et puis après ça.
Voilà.
Et donc, en tous les cas, celle-ci, cette histoire-là, je ne termine pas très, très bien. C'est l'occasion de parler de la mort, mais plus particulièrement, peut-être, du pouvoir de la littérature, du pouvoir de l'écriture, en l'occurrence. Si vous vous êtes mis aussi à l'écriture de ce livre-là, c'était certainement pour exorciser pas mal de choses que vous aviez vues, que vous aviez vécues en tant qu'humanitaire.
Oui, je pense qu'effectivement, ce livre, il est porteur. J'ai commencé à l'écrire après plusieurs années qui ont été vraiment difficiles, où j'avais accumulé les missions CICR. J'étais épuisée, tout simplement. J'avais fait 6 missions CICR pratiquement à la suite les unes des autres. J'avais ma vie privée qui était totalement en lambeaux. Il y avait le décès de mon oncle dans ma famille. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont vraiment accumulées. Et puis, l'écriture a été source de sens. En fait, dès le moment où on décide que... Moi, je suis une personne de décision. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire, et puis après, je le fais. C'est mon cadre. Et dès le moment où j'ai décidé que j'allais écrire ce livre, et puis l'autre aussi, ça m'a donné une mission. Ça m'a permis aussi de tenir un cap, parce que le travail, c'est la santé, n'est-ce pas ? Et l'écriture, c'est vraiment du travail. Et effectivement, ce livre, il est inspiré aussi de certains de ces endroits de mission CICR. Une des nouvelles se passe en Géorgie, on en parlera tout à l'heure. Et une fois qu'on... Des fois, on se pose des questions par rapport à certains drames qu'on vit et des cruautés de la vie. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a pris dans la figure, et puis qu'on a quand même décidé qu'on allait continuer à vivre? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et écrire, c'est de la transformation. Pour moi, c'est vraiment une question de sublimation. Et il ne s'agit pas d'écrire de manière littérale, parce que ça, je trouve, c'est très ennuyeux. J'ai lu plusieurs livres d'anciens CICR, je m'ennuie beaucoup.
Alors, des noms.
S'il n'y a pas une démarche littéraire et esthétique, ça m'ennuie. Mais je pense qu'elle a vraiment la question de la sublimation, de se dire finalement, c'est ça notre humanité, c'est qu'on cherche du sens et qu'on passe notre vie à chercher du sens au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ça qui fait qu'on n'est pas des animaux. Je pense que c'est la seule différence, c'est vraiment cette quête du sens. C'est que écrire, c'est mettre du sens, c'est ordonner le monde, avoir un début, un milieu, une fin, des causes, des conséquences. Et quelque part, les choses sont un tout petit peu moins en vain. Mm-hmm. Et puis finalement, les morts dans un livre, ils revivent. Mm-hmm. Et ça, c'est pas négligeable non plus.
Et comment ne pas être triste une deuxième fois quand on écrit ?
Alors, moi, il y a des fois où j'ai dû arrêter d'écrire parce que je ne voyais plus mon écran. Non, ça remue. Et puis, bon, moi je suis une artiste, je me considère comme une autrice baroque. C'est-à-dire que j'aime qu'il y ait des effusions. Ça, j'aime pas du tout la littérature propre. Quand c'est trop la dentelle, est trop précis, est trop hygiénique comme ça, ça me touche pas. Je vois qu'il peut y avoir du talent là-dedans, mais moi, ça me touche pas. Moi, j'aime ce côté très humain. Je pense qu'on écrit avec les fluides corporels, les larmes, le sang. C'est ça l'encre de la littérature. Écrire sur la vie, écrire sur l'humanité, c'est, à mon avis, c'est ça. Et donc, ça doit faire mal. Ça fait mal à la personne qui l'écrit. Ça fait mal aussi à la personne qui lit, mais ne vous inquiétez pas.
Non, mais on vous a dit ça se termine super bien, donc avec des très bons fluides corporels, toujours. Mais, est-ce qu'il a fallu quand même respecter un temps de latence entre le chagrin vécu et celui qui va être relaté, même s'il n'est pas directement raconté, mais...
Ça dépend. Certaines choses se passent effectivement un peu en sous-marin, on les remarque pas. La nouvelle que j'ai lu maintenant, cet extrait, j'ai pas respecté de temps de latence. Donc voilà, on va le dire les choses. Une de mes meilleures amies s'est suicidée, et cette nouvelle je l'ai écrite. Je pense que j'ai commencé 2 semaines après sa mort. Ça m'a pris 3 semaines de l'écrire, et ça a été, c'est ce qui m'a accompagnée dans cette espèce d'ouragan, de gouffre de sa mort brutale et vraiment tout à fait inattendue. Et ça a été la transformation aussi, vu que c'était Covid, que c'était le CICR et compagnie, et que tout le monde vivait dans des pays différents. J'ai pas pu aller aux obsèques. Donc il y a un moment où on a besoin d'un rituel. Et moi, ce que je sais faire, c'est écrire. Donc si j'ai besoin d'un rituel, j'écris.
Alors on va envoyer une lettre à cette amie. Renata va nous chanter tout de suite « Lettre à une amie ».
Une chanson qui a été composée indépendamment de l'histoire. Mais il se trouve que parfois les histoires se rencontrent.
Il reste quoi ? Il reste quoi ? Il reste quoi dans le miroir ? Dans le silence, dans les refrains. De ma mémoire, de ta mémoire, de ma réponse à ton regard, la résurgence de l'espoir. Que tu me vois, que tu me sentes, quand nos sentiers communs te hantent, te souviens-tu de notre histoire? Te souviens-tu de la route qu'on empruntait chaque matin, de passagères de la houle qui se mêlait à nos pas? Nous étions là, toutes deux ensemble, cueillant les roses de décembre avant que nous s'éloigne. Elle était là, tapis au loin, l'interférence, la grande histoire, celle qui brise les destins. Te souviens-tu de la brume que nous chassions de nos mains? Elle nous disait l'aventure ne se termine pas bien. Te souviens-tu de la digue qui retenait nos chagrins? Et la cédé la fatigue s'est emparé de nos liens. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste quoi dans les entrailles? La résilience, les retrouvailles, les retrouvailles.
Bravo Renata pour cette lettre à une amie. Alors, dans la vie, comme dans votre livre, il y a l'amour, il y a la mort et il y a l'humour. Vous auriez pu le rajouter, ça aurait continué l'allitération. On va parler, il y en a de l'humour hein, dans ce livre-là. Humour, ironie, autodérision. On va en discuter après bah, une preuve, une lecture.
La pression là, parce que c'est, oui. Si vous ne trouvez pas ça drôle.
Ah, vous êtes obligé de rire très 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 fort. Non, non. Un extrait de... Des tombes et des bombes. Oui, ça sonne pas comme une histoire drôle, mais...
Peut-être je vous dis juste que Le Droit de Savoir, c'est une ONG. On est en Géorgie, dans une famille géorgienne, dont le père a disparu à la guerre. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est un jeune homme étranger qui prononce cette phrase en anglais, imprégné d'un fort accent français, immédiatement traduite en géorgien par Tamar. Visiblement, quand le droit de savoir a des choses difficiles à annoncer, elle colle un porte-parole étranger. La mère n'apprécie pas et garde les lèvres pincées depuis qu'il a surgi derrière Tamar à l'entrée. Elle jette à l'employée géorgienne des regards suppliants, comme si la jeune femme pouvait se débarrasser de son chef expatrié, mais aussi pour lui signifier qu'elle compatit à cet affront à la dignité nationale. L'homme, Julien, s'est-il présenté, aligne ses phrases avec une gêne visible. Anastasia se dit qu'il est sûrement suisse, avec cette manie incompréhensible qu'ils ont de tous vouloir s'engager dans l'humanitaire. Les Suisses croient qu'ils peuvent changer, sauver le monde. C'est sans doute leur naïveté qui agace le plus Anastasia dans sa vie genevoise. Elle le regarde avec pareille défiance que sa mère. Il lui apparaît comme une tentation envoyée par le Très-Haut pour mettre à l'épreuve sa double loyauté, Suisse ou Géorgie. Anastasia se sent géorgienne comme rarement et ne prononce pas un mot en français. Elle fait même mine de ne pas comprendre son franglais. Il parle de façon mécanique. Aurait-il appris ses répliques par cœur avant de venir que ce serait pareil? Elle le foudroie, elle le méprise.
Merci. Un extrait de « Des tombes et des bombes » où effectivement on est en Géorgie et le récit de fond c'est celui de ces disparus, ces corps disparus qui parfois, des années après la guerre, ne sont toujours pas retrouvés, donc on ne sait pas encore s'il est... S'il est le père, en l'occurrence, est en vie ou non. Dans ce texte, donc, on a entendu ce ton-là, cette ironie, de toute évidence, cette autodérision ou ce règlement de compte, je ne sais pas, il faut nous expliquer ici, Tasha Remley, pourquoi est-ce que le Suisse, qui vient de l'humanitaire, comme vous, est presque jugé arrogant, en tous les cas, il a bien l'intention de sauver le monde, alors que le peut-il ?
Oh, parce que c'est une réalité. Hein. Nous, on voit l'humanitaire depuis notre lorgnette d'ici. C'est un rêve pour beaucoup de personnes. Moi, ça a été un rêve depuis que j'étais petite fille. Et on se dit, on va aller faire des belles choses, on va aller aider les gens et tout. Puis quand on arrive sur place, on est un symbole de la guerre, en fait. On est un symbole du malheur, parce que les gens n'ont pas du tout envie de recevoir de l'aide humanitaire. Les gens ont envie de vivre leur vie normalement, de travailler, de gagner leur croûte eux-mêmes. Donc, il y a un énorme clash, en fait, entre l'attente... Il y a ce syndrome du sauveur blanc, qui est quelque chose qui est beaucoup thématisé maintenant dans le secteur humanitaire, ce problème en fait qu'on a dans nos sociétés à croire qu'on va aller, aider les petits Africains, etc. Et c'est pétri de condescendance, c'est aussi pétri de néocolonialisme. Et c'est des choses qui, c'est vraiment thématisé maintenant dans le secteur de l'humanitaire. Je pense que c'est très bien, mais des fois on le sent soi-même qu'on est inadéquat, parce qu'on est peut-être dans un pays où on ne parle pas la langue, on a besoin d'un traducteur, on essaie de parler à des personnes qui sont dans une situation dramatique avec un traducteur. La personne parle pendant 5 minutes et le traducteur nous dit « Oui, elle dit qu'elle a faim. » et puis s'arrête. Donc on voit bien qu'on a manqué 90% de ce qui a été dit parce que le traducteur ne va pas nous traduire. Et puis on a souvent ce sentiment d'être un petit peu à côté et on se questionne en fait pourquoi. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Je reste convaincue que c'est absolument juste de le faire. Mais je pense que c'est bien de se questionner un petit peu. Et puis effectivement, là, en me moquant de cette humanitaire suisse dans cette nouvelle, c'est de moi-même et de mes congénères que je me moque. Et je pense que c'est...
Mais c'est aussi une manière de faire entrer un peu de légèreté dans le récit.
Tout à fait, oui. Et c'est vrai que j'ai le goût du drame, disons, dans la littérature. J'aime des histoires qui retournent, qui touchent, qui bouleversent. Mais j'aime le grand huit, qu'on passe du rire aux larmes. Et souvent, je pense que le rire, c'est aussi ça qui nous permet de on vit tous dans des situations désespérées à un moment ou à un autre, et puis quand on a cette capacité de prendre un pas de recul et de juste se mettre en perspective et de rire un petit peu de ce qui nous arrive, c'est quand même un moyen de survie qui est sans doute parmi les meilleurs, parce que il faut qu'on soit capable de faire ça. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'essaye de passer de l'un à l'autre. Le tragicomique, je trouve que c'est quelque chose d'assez magnifique. Mm-hmm. Mais il faut savoir rire de soi. Le problème, c'est qu'après, si on attend aussi que les autres sachent rire d'eux-mêmes. Ça, c'est pas toujours le cas.
Parce qu'il y a aussi ce personnage, je crois que c'est Aurélien, dans la nouvelle « Vivant les morts », qui, lui, veut écrire un livre. Et d'ailleurs, il dit que c'est super facile d'écrire un livre. Là, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi pas mal d'autodérision.
Oui, il essaie de reprendre les œuvres de son grand-père. Et son grand-père avait dit toute sa vie durant qu'il allait écrire ses mémoires. Et pour une raison que je ne vous explique pas, parce que sinon je vous spoil tout, le petit-fils essaie de reprendre les œuvres de son grand-père. Et son grand-père disait toujours, non, mais le livre, il est presque prêt, j'ai qu'à l'écrire, là, j'ai toutes les infos et tout, il n'y a qu'à le faire là. Et évidemment que non. Et ça, je l'ai déjà entendu. Il y a pas mal de gens qui croient qu'en ayant quelques éléments là, comme ça, on va vite écrire un livre entre 5 et 7 avant d'aller prendre l'apéro, quoi.
Donc, mort, humour, amour et sexualité, quand même, au cœur. On vous a dit que ça se terminait bien, mais c'est ça, c'est la fin. C'est la dernière, le tout dernier texte que vous avez qualifié de outro, qui s'intitule La petite mort, dont vous allez nous en lire un extrait.
La petite mort. Un trou est un trou et la bite n'a pas d'œil. Dicton populaire, gros de Vaudois. Où j'ai grandi, n'est-ce pas? Ta peau s'est faite ultra sensible. Elle frissonne aux effleurements. Les caresses font naître ses courbes et ses creux. Toute cette géométrie qui, en état normal, ne fait qu'être sans exister. Ton corps se redessine sous ses doigts, se contorsionne comme un chat, pour imprimer la marque de ses mains à la légèreté exaspérante. Tu tentes de retenir les tiennes qui palpent son corps, leur avidité qui s'emballe pourrait le malmener si tu n'y prends pas garde. Ralentir, adoucir, jouer sans casser. La soif a asséché ta bouche qui cherche l'eau dans la sienne. Les langues entremêlées tirent une ligne de vie qui tous deux vous abreuvent. Dans ses cheveux, derrière son oreille, tu inspires son odeur un peu âcre qui te ferme les yeux comme un rail de coke et t'enivre. Les vêtements vous ont quitté, laissant vos peaux sans obstacle communiquer en morses d'attouchement et de frottement, glissant de sueur mais rugueux d'arêtes osseuses et de surfaces velues. Sa dureté libérée s'écrase contre ton ventre brûlant qui crie son manque, qui s'indigne de l'attente. Le vide exige d'être comblé. Et celui qui pénètre ou toi qui l'aspire, qui sait? Chacun tient maintenant l'autre en otage, lutte pour freiner l'emballement, goûter encore la sensation des mouvements infimes, des pressions imperceptibles. Les vagues de haute mer vous portent, vous flottez, à la fois submergés et absous. L'état de grâce vous laisse croire en votre union. Enlacés, comme par amour, vous entrez en communion.
Voilà, et ça continue après. Donc c'est la petite mort, ce texte qui clôt votre livre, Tasha Rumley. Pourquoi avoir choisi de terminer sur un texte érotique?
Alors, j'aimerais dire que ce n'est pas de ma faute. Hein, parce que,
c'est pas la mienne non plus. Hein. Ça, c'est...
Parce que la petite, quand on écrit un livre ayant pour thème l'amour et la mort, bah, la petite mort, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Hein, ça existe dans notre civilisation. C'est une très belle expression pour l'orgasme. Et ça, c'était une évidence. Comme je vous l'ai dit, je trouve d'abord les titres et ensuite l'histoire. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est un titre, évidemment. Et puis, à partir de là, j'ai cherché l'histoire. Et pourquoi faire de l'érotique parce que c'est beau, parce que je pense qu'il y a énormément de demandes. Je pense que ça intéresse tout le monde. L'érotique, ça intéresse les gens qui pratiquent, les gens qui ne pratiquent pas, les gens qui aiment, les gens qui ont peur. Enfin, c'est quand même un des grands mystères de la vie. Et je pense que les gens qui disent que ça ne les intéresse pas mentent, tout simplement. Et voilà, c'est inavoué, ce qui est quand même très paradoxal, parce qu'on est à l'époque du porno gratuit, omniprésent, à bout de clic. La consommation est absolument effarante. Mais par contre, on va surtout pas acheter un livre érotique en librairie, ça non, ça se fait pas. Donc c'est absurde parce que le porno fait du mal, j'en suis persuadée, donc je suis assez opposée, c'est assez conservateur ce que je dis, mais le porno classique me révolte, comme féministe, ça me révolte totalement. Mais vu que le besoin est là, l'envie est là à tous les niveaux, je crois qu'il faut y répondre et qu'écrire de la littérature érotique de qualité, avec une recherche littéraire, avec une recherche esthétique, c'est se battre contre le porno, c'est aller récupérer la terre brûlée par le porno, reprendre des centimètres carrés. On ne va pas en reprendre beaucoup, mais il faut le faire. Voilà, forcément, j'étais un petit peu hésitante, évidemment. Oui. Le regard de mes parents, ce n'est pas le truc le plus... voilà. Mais
justement, dans la salle, nous avons un
maman
témoignage.
Maman est là. mais il faut s'y assumer, en fait. Et il faut se battre. Et je réalise... Et depuis, j'ai en fait écrit plusieurs autres textes érotiques. J'ai gagné des prix, en fait, érotiques. C'est quand même génial. Et ils sont là-bas derrière, si ça vous intéresse. Et j'osais pas mettre mon nom en me disant, mais ah, mon Dieu. Mais si personne n'assume, on va nulle part. Donc il faut aussi, stand for your ideas et voilà, le faire sérieusement.
Et vous y allez sérieusement, puisque c'est provocateur aussi, vous intervertissez les rôles ici. Ce n'est plus la femme objet, mais l'homme objet.
Oui, tout à fait. Alors c'est la réponse à mon enfance et adolescence scabreuse dans le Gros de Vaud.
Extrêmement,
extrêmement machiste. Et on nous le disait, ce proverbe que je vous ai lu au début, un trou est un trou et la bite n'a pas d'œil, on nous rabâchait les oreilles avec ça quand j'avais 15 ans. Moi et mes amis, à un âge, on était vierges et on nous disait ces horreurs. Les mecs nous disaient ça. Et en se vantant de qui ils avaient sauté dans la roulotte de la jeunesse. Enfin, c'était vraiment des histoires affreuses qui en fait nous terrorisaient. Et je pense qu'elles visaient à instiller la terreur de la sexualité et à tout de suite nous humilier d'avance. Et s'assurer que surtout on ne serait pas des êtres sexuellement indépendants, qu'on resterait la proie, on resterait l'objet, que notre rôle c'était de dire non et que quand on allait craquer, on serait sale. Et c'est vraiment d'une perversité absolue. Je suis partie du Gros de Vaud et j'en suis bien contente. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit. Cette idée que la femme est un objet sexuel, c'est une vue de l'esprit qui n'est basée sur rien. C'est une pure construction culturelle de la civilisation. Le but de ce texte, c'est de renverser. C'est de dire, en fait, si on était dans une civilisation avec des valeurs totalement inversées, rien ne nous empêche de faire croire à un homme dans un acte sexuel qu'il est un objet, qu'il est lui humilié, qu'il est lui baisé. On peut tout retourner. Et donc la biologie n'a absolument rien à voir là-dedans. Et on peut aller dans un mythe de la femme, la montre religieuse, la femme qui dévore, etc. C'est possible. Et donc si on avait eu un développement de notre civilisation sur les derniers milliers d'années, disons les 2000 ans d'histoire chrétienne totalement renversée, on n'en serait pas là aujourd'hui et les hommes se feraient baiser et utiliser par les femmes. Donc c'est une démonstration, puis c'est un peu pour dire, voilà, maintenant, on sort du livre, quoi.
On sort du livre et on va rentrer dans un prochain, si on a bien compris,
oui.
Qui est cette fameuse saga, donc, que vous avez fini. Ça y est.
Voilà.
Enfin, oui. Le premier tome. Voilà. S'il y en a 25. Non.
Non, alors oui, j'ai fini. Moi, le livre sur lequel je travaille depuis 2019, je l'ai terminé cet été. Et il va sortir au mois de mars. Et ma nouvelle éditrice est peut-être là ce soir, je ne sais pas. Elle est là, super.
Aux éditions Favre.
Donc. Voilà, donc le prochain livre sera aux éditions Favre, normalement pour le mois de mars. Et c'est vrai que 4 ans de travail sur un livre, c'est quand même une grosse émotion. Et puis ce sera très différent. Ce sera en fait un livre beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux, beaucoup moins dur. Enfin, il y a un peu des passages durs, mais pas beaucoup. Et là, on est vraiment. Et là, c'est sur un long cours. C'est la vie romancée de mon oncle qui a fait de l'humanitaire, qui a fait du CICR, qui a fait la DDC, qui était une personnalité assez connue, assez remarquable, et qui a traversé toute une histoire de la Suisse. Avec Sainte-Croix, avec les immigrés suisses qui partent au Québec. Enfin bref, on refera une soirée si ça vous dit, et puis je vous le présenterai. Mais voilà, la suite arrive.
Merci beaucoup. Il nous faut entendre Renata quand même pour terminer en musique avant que vous puissiez poser toutes vos questions à Tasha.
Gravir les sommets, toucher la lune, les étoiles, tu disais. Suis-moi, reste pas là, à traîner des ondes derrière toi. Gravir les rochers, pétrir la glaise et la braise en même temps. C'est loin d'être facile, d'être fragile, abandonne pas. Je ne m'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Et si je marche dans tes pas, c'est toi l'étoile. Et si je marche dans tes pas, l'étoile ne s'éteindra jamais. Gravir les rochers, longer les cimes, faire tes rimes, tu verras, c'est loin d'être impossible, d'être solide, reste sur cette voie. Je reste sur ma voie, je reste sur le moi. Et si je marche dans tes pas, c'est toi l'étoile. Et si je marche dans tes pas, l'étoile ne s'éteindra jamais. Elle brillera jamais. Tu vivras jamais en moi. En moi.
Merci beaucoup, Renata. C'était magnifique. Bien, c'est à votre tour de poser toutes les questions que vous avez pour Tasha Rumley. Alors, qui se lance en premier ? Oui.
Juste une question. Quand tu as présenté ton livre à ta maison d'édition, ils ont fait des changements dans ton livre ou ils l'ont gardé comme ça ?
Alors non, ils ont pas fait des changements. Mais je suis toujours prête à discuter si on m'en propose des bons, mais non, il n'y a pas eu de changement. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait des fautes dans mon livre, et là, faudrait que je change.
D'autres questions ?
C'est une question qu'on pose souvent quand même. Mais je suis curieuse. C'est quoi ta routine d'écriture, Tasha ? Comment est-ce que tu écris le matin, le soir, comment ça se passe ?
Alors, en général, moi, j'ai la chance d'avoir un pied-à-terre à Sainte-Croix, qui est comme une sorte de petit chalet. Et puis je monte le vendredi soir. Et à partir de là, en général, j'ai assez peu d'activités sociales pendant le week-end. Et de vendredi soir au dimanche, fin de journée, j'écris. Et là, à partir de là, c'est vraiment, j'écris assez tard le soir. Mais sur un week-end, après, je travaille tout le long, en fait. Quand je me lève le matin, je déjeune, après j'écris. Après, je vais marcher un peu, j'écris.
Et est-ce que tu fais un plan quand tu écris, ou est-ce que tu suis ton idée
Les personnages qui se lèvent, tu disais avant.
Oui, mes personnages, ils se lèvent et ils ont la liberté de se promener, mais ils vont du point A au point B. Donc, en général, quand l'inspiration vient pour une histoire, j'ai le titre, j'ai la scène de départ et j'ai la scène d'arrivée. Et puis, des fois, j'ai quelques jalons, mais pas toujours. Ça dépend aussi si c'est un texte long ou court. Sur le texte de L'heure morte, je l'ai extrêmement peu scénarisé à l'avance. En fait, je ne me souviens même pas comment je l'ai écrit. Enfin, c'est plutôt ça. C'est que je savais d'où je partais, je savais comment ça se finissait, et je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé.
Est-ce que tu te sens habité?
Oui. En fait, mais ça se passe énormément par période. Là, j'ai un nouveau travail depuis 6 mois, donc j'écris beaucoup moins, parce que ça me prend de l'énergie. Mais dans le travail d'avant, ça ne me prenait pas beaucoup. À un moment donné, j'étais à 80% en plus, donc je commençais le jeudi soir, du jeudi soir au dimanche soir. Et quand j'étais, que ce soit sur ce roman ou sur celui qui va sortir, quand j'étais dans des périodes très intenses, en fait, je rêvais du livre. Et je me réveillais parfois parce que j'avais des fautes qui m'apparaissaient. Je me disais, non, mais là, ça va pas. Et je me réveillais à 3 heures du mat en me disant, ça va pas. Des fois, j'ai changé des mots. Je trouvais le bon mot dans mon sommeil. Mais ça, c'est rare. Hein. C'est quand on est tellement absorbé. Et c'est des états de grâce. Bien sûr qu'on a envie de retrouver ces moments-là, mais ils sont difficiles à provoquer.
Tu disais quelque chose de très intéressant, donc des fois tes personnages t'amènent à des endroits qui prennent un peu leur propre voie presque. Et puis est-ce que des fois ils t'amènent à des endroits où t'as pas envie d'aller? Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, si c'est le cas?
Non, je pense qu'il n'y a pas des endroits où j'ai pas envie d'aller parce que je suis à la recherche d'une intensité. Et que moi ça me dérange pas de pleurer sur un manuscrit et de devoir l'abandonner quelques jours parce que c'est trop dur. J'aime bien appuyer là où ça fait mal. Donc, disons, ce serait ça, je pense, un endroit où on a peut-être peur d'aller. Je crois pas que ça m'arrive vraiment. Après, peut-être que... Parce que là où je veux pas aller dans l'ennui. Moi, je suis une personne qui gère très mal l'ennui. Et donc, si mes personnages m'emmènent dans l'ennui, mais ils vont pas le faire tout seuls, en fait. On emmène nos personnages dans l'ennui quand on n'a pas d'inspiration, puis qu'on est un peu à sec, puis qu'on se force à écrire de manière mécanique et ça marche pas. Et c'est là qu'on atteint une certaine platitude et il faut enlever ça.
Ouais. Bonsoir, merci pour votre présentation, votre sincérité. Est-ce que le passage de l'écriture journalistique à l'écriture littéraire vous a appris beaucoup de choses sur vous?
Sur moi À la base, simplement, l'écriture journalistique est une excellente école, avec quand même l'idée aussi de garder l'intérêt des lecteurs, un certain punch. Disons que si on perd nos lecteurs, que ce soit dans la presse ou dans la littérature, c'est perdu. C'est nous qui avons perdu comme auteurs. Sur moi, en fait, j'ai eu beaucoup de temps. J'ai arrêté d'être journaliste en 2012. Et puis, je me suis mise à la littérature sérieusement en 2019. Donc, il y a eu une sorte de creux. Puis, dans ce creux-là, je me suis mise à écrire de la poésie. En mission humanitaire, j'écrivais des poèmes qui sont pas forcément très bons, mais qui m'ont permis de faire un peu de faire le saut vers l'artistique, vers l'abstrait aussi, vers la démarche uniquement esthétique. Et peut-être de me débarrasser... De ce qui est trop rationnel, ce qui est trop encadré, peut-être, dans le journalisme. C'est une bonne question, il faudrait y réfléchir.
Vous disiez que vos personnages, vous ne vouliez pas, ils ne vous emmenaient pas là où vous ne vouliez pas aller. Vous n'êtes pas allé en Ukraine dans ce livre-là, alors que c'est quand même le pays où vous avez le plus vécu et... Voilà.
Oui, c'est vrai. Et alors là, c'est vrai que ça revient sur la question de la distance. Clairement, l'Ukraine, c'est mon pays de cœur. C'est celui que je connais le mieux. J'ai passé 2 ans et demi dans le Donbass et je me suis beaucoup attachée à ce pays. Et quand j'ai quitté le CICR, je revenais de Donetsk. Et je me suis dit, j'écrirai sur l'Ukraine plus tard. Et vu que, en fait, il y a juste une toute petite mention que j'avais lue au début hein, sur les bombardements en Ukraine. C'est la seule mention de l'Ukraine sur tout le livre. Je pense que j'avais une sorte de, d'ambivalence avec ça, de ne pas avoir écrit sur l'Ukraine. Et du coup, j'ai voulu avoir une identité ukrainienne. Donc la couverture du livre, c'est une photo de l'Ukraine, du photographe Neil Sackerman, qui a gagné le Swiss Press Photo. C'est à côté de Tchernobyl, cette image-là. Et le photographe a fait un reportage sur la jeunesse qui a grandi dans la ville à côté de Tchernobyl. Ça s'appelait « Les enfants de Tchernobyl sont devenus grands ». Je lui ai acheté cette photo pour la couverture du livre avec cette idée de... j'avais envie d'avoir une identité ukrainienne, même si elle n'est pas du tout compréhensible pour les lecteurs, je m'en rends bien compte. Et puis pour la petite histoire, ça c'est quand même assez fou, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques mois. Cette photo, donc, elle doit être regardée de manière horizontale. C'est une photo de l'absence. On a cette femme très mélancolique, très, très sexualisée, comme ça, très bien apprêtée, mais qui a l'air tout à fait triste et seule. Et elle est à côté d'un fauteuil seul. Donc c'était pour moi la photo parfaite pour illustrer l'absence. Cette femme existe, elle s'appelle Yulia. Elle a une trentaine d'années. Elle était l'héroïne de ce reportage du photojournaliste Neil Sackerman. Et elle s'est mariée. Elle a eu un enfant. Et il se trouve que son mari est médecin et que quand l'invasion a commencé, ben, il s'est engagé à l'armée et il est parti à Mariupol comme médecin de l'armée. Il a été tué à Mariupol. Et donc j'ai appris ça il y a peut-être 6 mois. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que je ne la connais pas, Yulia. Ce n'est pas moi qui ai fait ce reportage. Mais j'ai pris cette femme pour illustrer l'absence. Et maintenant, le fait est que son mari est mort. Et qu'elle a 30 ans, et elle a une petite fille de 5 ans, et elle est veuve, quoi. Et là, je me suis dit, ça m'a vraiment... j'ai eu presque peur de l'avoir entraînée... Enfin, ouais, ça, c'est la superstition. Hein. Mais de me dire, mon Dieu, est-ce qu'il y a un moment où la vie imite la fiction ? C'est des choses interpellantes, comme ça. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En fait, vous avez surtout hâte de vous précipiter sur le livre pour le lire, c'est ça?
Je vous ai donné vachement envie, je me rends compte.
Bien. Cornelia, est-ce que...
Merci beaucoup.
Merci,
Tasha. Alors, Renata,
pour ce beau partage.
Merci beaucoup.
Si vous avez envie de continuer à causer avec Tasha, Elle sera là-bas à la table des dédicaces avec son livre « À l'amour, à la mort » et ses écrits érotiques. Et puis, vous pourrez acquérir les livres, parler avec elle. Je voulais quand même vous parler du prochain rendez-vous de Tu l'as lu, parce qu'il y en a encore un d'ici Noël. Cette fois, ce ne sera pas un lundi soir, ce sera un mercredi 13 décembre à 15h30. Et ce sera un mercredi pour cause, parce qu'on va en fait faire une rencontre avec la limonade littéraire. La limonade littéraire, c'est en fait la petite sœur de Tu l'as lu. C'est une association qui promeut la littérature enfantine et surtout la littérature de Suisse romande enfantine. Et puis là, on va recevoir une auteure qui s'appelle Philippine de Gréa, qui a écrit une série sur Germaine de Staël. Et puis on va la recevoir pour son deuxième tome, qui s'appelle Le rescapé du lac. Il y aura un goûter après, donc venez avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est à partir de 8 ans. Donc ce sera à la ferme des Tilleuls, le mercredi 13 décembre à 15h30, vous êtes les bienvenus. Et puis, je voulais aussi vous dire, à la table des dédicaces, il y a des cartes postales. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé s'il y avait une corbeille. Il n'y a pas de corbeille, l'entrée est libre, mais vous pouvez devenir membre de Tu l'as lu. On est très heureux d'avoir des membres qui nous soutiennent. Donc il y a des cartes sur la table là-bas qui vous disent comment faire pour devenir membre. Et puis maintenant, c'est l'heure de l'apéro. Il y a une verrée qui est préparée par le TKM. Comme ils savent très bien le faire, je vous souhaite une très bonne soirée encore. Merci beaucoup d'être venu.